dans cette rue tranquille.
Histoire de cinéma, Jean-Philippe Gunet.
Un mystère se révèle.
Coulisses, anecdotes, secrets de tournage.
Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel. Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel.
Redécouvrez les plus grands films autrement.
Et une aventure commence.
La semaine dernière, je vous ai raconté comment Peter Jackson, le cinéaste néo-zélandais de Fantôme contre Fantôme et du Seigneur des Anneaux, a monté son remake de King Kong. Un projet qu'il chérissait depuis son adolescence et qui a mis près de 10 ans à voir le jour. Peter Jackson est un inconditionnel du film mythique de 1933, et il situe sa version en 1933, justement, et suit fidèlement la trame de son modèle. C'est l'histoire d'un réalisateur new-yorkais qui monte une expédition vers une île lointaine de l'océan Pacifique. Là-bas, son équipe tombe sur un gorille géant qui kidnappe Anne Darrow, la vedette féminine. Naomi Watts reprend le rôle autrefois tenu par Favreau. Jack Black et Adrien Brody ont les deux principaux rôles masculins, et Kong lui-même est joué par Andy Serkis, l'acteur qui a incarné Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Pour réaliser King Kong, Peter Jackson dispose de toutes les infrastructures nécessaires à Wellington, en Nouvelle-Zélande. En fait, ces infrastructures, il a commencé à les créer dès les années 90. Et la trilogie du Seigneur des Anneaux lui a permis de les agrandir suffisamment pour accueillir une super production. Wellington en a même gagné le surnom de Wellywood. Il y a d'abord les studios de Stone Street à Wellington, le site d'une vieille usine entièrement reconvertie en vaste plateau de cinéma dans la droite ligne de ce qui existe à Los Angeles. Après, le Weta Workshop, qui avait fabriqué toutes les armes et accessoires du Seigneur des Anneaux ainsi que des prothèses. Puis, Weta Digital, la société d'effets numériques créée par Peter Jackson, devenue légale d'ILM, Industrial Light and Magic, la référence dans le domaine. Le 8 août 2004, Favreau, la star du King Kong originel, meurt à l'âge de 96 ans. Peter Jackson voulait lui faire dire la réplique finale de son remake. À moins d'un mois du début du tournage, le sort en décide donc autrement. Malgré tout, Naomi Watts a eu le temps de la rencontrer et Favreau lui a donné sa bénédiction en disant « Anne Darrow est dans de bonnes mains ». Le tournage de King Kong débute donc le 6 septembre. Peter Jackson et son équipe ne sont pas à Wellington, mais à Miramar, où ils filment les séquences dans le village indigène où débarque l'équipe de cinéma juste avant de rencontrer Kong. Les studios de Miramar servent aussi pour les scènes à bord du bateau, reproduits à taille réelle contre des fonds verts. La scène du théâtre de Broadway, où Kong brise ses chaînes et s'échappe, est filmée à l'opéra de Wellington et dans un théâtre d'Auckland. Tout le reste du film est tourné à Wellington, dans le complexe de Stone Street. Un plateau supplémentaire est même construit rien que pour ce tournage. Peter Jackson reconnaîtra après coup que le tournage est très exigeant pour Naomi Watts. Comme Favreau et Jessica Lange avant elle, l'actrice est emmenée dans la main de Kong, portée dans des arbres et secouée de partout. Andy Serkis, l'interprète de Kong, doit jouer son rôle deux fois. Une première fois sur le plateau, face à Naomi Watts, revêtue d'un costume spécial, avec des bras volontairement démesurés. Puis une seconde fois en post-production, sur le plateau de la performance capture. En fait, un plateau spécial où il refait exactement les mêmes mouvements que ceux qu'il a déjà fait avec Naomi Watts, mais son corps et son visage sont bardés de capteurs. Rien que sur son visage, il en a 132. Les caméras n'enregistrent que les capteurs, mais c'est assez pour fournir la matière aux animateurs de Weta Digital pour un Kong numérique entièrement guidé par la performance d'Andy Serkis, comme l'avait été Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Pour Peter Jackson, impensable de faire son King Kong sans la scène finale où Kong est attaqué par des biplans au sommet de l'Empire State Building. Le cinéaste a pour habitude de faire une toute petite apparition dans ses films. Ici, c'est dans le rôle d'un des pilotes des biplans. Une partie de New York est reconstruite en plateau, le reste est fait numériquement en commençant par l'Empire State Building. Le rugissement de Kong est celui d'un lion joué à l'envers et à demi-vitesse. Le tournage de King Kong est bouclé en mars 2005. Le film a finalement coûté 207 millions de dollars, soit 32 de plus que les 175 prévus au départ. Alors que le film de 1933 durait 1h40, celui de Peter Jackson compte pas moins de 3 heures. En fait, le cinéaste néo-zélandais a bien plus de temps et de moyens que Marianne Cooper et Ernest Jeudzak en 1933. Il peut donc tourner de longues scènes d'action, comme celle dont vous allez entendre un extrait, Kong y combat trois tyrannosaures au bord d'un ravin, tout en tenant Anne dans sa main. Pour la bande originale, Peter Jackson avait logiquement reconduit Howard Shore, qui avait composé la musique du Seigneur des Anneaux. Mais 2 mois avant la sortie du film, c'est la grosse surprise, Howard Shore quitte King Kong alors que l'écriture de la musique est déjà bien avancée. Officiellement, lui et Peter Jackson ont pris la décision d'un commun accord pour divergence artistique. Du coup, 2 mois avant la sortie, un autre compositeur est embauché, James Newton Howard. Il écrira une bande originale entière dans ce délai plus que serré. Rétrospectivement, je me demande bien ce qui a pu déranger Peter Jackson dans la musique d'Howard Shore. On ne le saura sans doute jamais, mais je suis bien curieux d'écouter cette musique rejetée. Celle de James Newton Howard tient tout à fait la route. C'est une belle musique, mais pas exceptionnelle non plus. La première de King Kong a lieu bien évidemment à New York le 5 décembre 2005. Le film sort ensuite le 14 décembre un peu partout dans le monde, dont la France. Sur le sol américain, King Kong récolte 218 millions de dollars. Si on ajoute l'international, le total grimpe à 562 millions, ce qui en fait un beau succès, sans être un triomphe malgré tout. En France, quasiment 3,6 millions de spectateurs font le déplacement. Aux Oscars 2006, le film remporte 3 statuettes, meilleurs effets visuels, meilleur montage son et meilleur mixage son. Peter Jackson a gagné son pari. Ce remake de King Kong est bien un hommage au chef-d'œuvre de 1933. Certes, il a ses imperfections, certains effets visuels ont mal vieilli, mais il est clairement habité par la passion du cinéma.
C'était Histoire de cinéma avec Jean-Philippe Gunet, à retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict-radio.com.